Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
The landscape here, the beach, it's just breathtaking.
Bonjour à tous. Pas encore investi nouveau président des États-Unis, Donald Trump suscite déjà la colère dans un petit village en Irlande. Car tout près de Dunbeg, sur la côte ouest, le milliardaire a racheté il y a près de 3 ans un immense complexe hôtelier. Tout s'est corsé lorsqu'un mur a été construit le long de cet écrin de verdure pour protéger les golfeurs des intempéries. Explication de Julien Lagache.
Les associations environnementales et clubs de surfeurs adeptes de l'endroit ont protesté les premiers contre l'idée de déverser 200 000 tonnes de roches pour édifier un mur de 4 mètres de haut sur 3 km de long. Ce projet à 10 millions d'euros devait permettre de freiner l'érosion de la côte et donc de protéger l'investissement de Donald Trump. Le mania de l'immobilier avait racheté le terrain pour une bouchée de pain selon ses propres termes, mais il voulait en faire un golfe exceptionnel. Seulement l'océan Atlantique et ses caprices n'entraient pas dans ses plans. Un premier mur avait alors été mise en chantier sans autorisation. La direction de l'hôtel a vite dû faire machine arrière sur ordre des autorités locales. 2 ans et demi durant, le sujet est resté en suspens pour cause de recours administratifs divers. Il faut dire que les dunes de Carromore et la côte sableuse de Dunbeg font partie d'une zone spéciale de conservation de l'Union européenne. Elle abrite notamment une espèce ancienne et menacée d'escargots microscopiques. Les amateurs de nature et de vagues craignaient que la construction d'un mur finisse par détruire la plage et l'habitat de cet animal, en plus d'empêcher l'accès au public. L'élection de Donald Trump à la Maison Blanche en novembre dernier a donné quelques sueurs froides à ses détracteurs irlandais, inquiets de voir l'influence de l'homme d'État surpasser celle de l'homme d'affaires dans le village où il emploie 300 personnes. Mais dans cette guerre d'usure, et après une pétition signée par près de 100 000 personnes, la direction de l'hôtel a abandonné l'idée du mur. Elle vient de déposer un projet beaucoup plus modeste et non visible de protection du golfe. Des officiels du groupe Trump justifie ce recul par l'urgence à agir devant les éléments et les aléas climatiques qui menacent, un argument qui fait sourire les opposants habitués aux positions climato-sceptiques du nouveau président américain.
L'année qui vient de s'achever n'aura laissé aucun répit aux migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Plus de 5000 personnes sont mortes ou portées disparues, le chiffre le plus important jamais enregistré. Et partout dans le monde, ce sont autant de familles qui cherchent à savoir ce qu'est devenu leur proche. À Syracuse, en Sicile, l'inspecteur Milazzo a choisi de découvrir l'identité des victimes avec les outils de son temps. Depuis plusieurs années, il recourt aux réseaux sociaux pour retrouver les familles des victimes, elle-même dans une insupportable incertitude, et croiser les informations et fichiers ADN. Cécile Debarge l'a rencontré.
Voilà, c'est la liste complète avec tous les cimetières et les emplacements précis où ont été enterrées les victimes. Tout peut être retracé.
Dans l'épais classeur qu'il a sous les yeux, l'inspecteur Angelo Milazzo résume plus de 2 ans de travail. Une liste de 24 victimes d'un naufrage, dont 21 sont formellement identifiées et 3 autres en passe de l'être en attendant un ultime recoupement ADN. C'est un petit miracle tant il est difficile d'ordinaire de rendre un nom et surtout de retrouver les familles des victimes. Ce naufrage du 26 août 2014 ressemblait à tant d'autres, un départ de la Libye et puis un bateau de bois surchargé, explique le policier sicilien.
Il était traîné par un autre chalutier plus gros, en métal. Quand les passeurs se sont rendus compte qu'ils avaient été repérés et que l'Italie allait intervenir, là, ils ont coupé la corde avec laquelle ils traînaient le bateau et sont partis. Le bateau commençait déjà à embarquer de l'eau. Quand les secours se sont approchés et ont commencé à distribuer des gilets de sauvetage, les gens qui étaient dans la soute sont remontés sur le pont pour en attraper et ils ont complètement déséquilibré le bateau.
Sur les images tournées par la marine militaire, on voit la coque vaciller de longues secondes dans un mouvement de balancier policier fou avant de se retourner. Au total, une quarantaine de corps est repêchée par la Tunisie, 55 autres en Libye, 24 en Italie et 352 survivants sont disséminés dans les centres d'accueil de la région. L'inspecteur les interroge, recueille les témoignages, analyse les puces des téléphones retrouvées sur les victimes, suit même attentivement les JT tunisiens avec l'aide d'une interprète et retrace petit à petit ce qu'il est advenu des victimes.
Dal vestiario dei corpi, dalle schede.
Noi siamo riusciti. En visionnant ces journaux sur la télé tunisienne, on a réussi à retrouver les corps qui nous avaient été décrits grâce à leurs vêtements.
Una persona.
Mais cela ne suffit pas. Comment contacter les proches pour pouvoir les prévenir, effectuer des tests ADN afin d'être sûr à 100% de l'identité des victimes?
En me connectant sur Facebook depuis mon compte personnel, je me suis rendu compte que sur de nombreux sites internet arabophones, des Syriens avaient émis des avis de recherche, aussi bien pour ce naufrage en particulier que pour d'autres.
Au total, 109 Syriens sont portés disparus. Des bébés de quelques mois, des personnes âgées, des familles entières. Rapidement, les signalements affluent, mais les échanges de mails sont souvent lents et fastidieux. Avec l'aide d'une interprète, Angelo Milazzo imagine une page Facebook. À peine l'aval du procureur donné, il la met en ligne en octobre 2014.
Facebook nous a permis de rentrer en contact avec de nombreux proches des victimes et de nous créer une base de données qu'on a ensuite croisée avec les informations que nous avions recueillies.
Fin 2014, donc, c'est la première fois que les réseaux sociaux sont utilisés dans une enquête de police du groupe Interforce contre l'immigration clandestine de Syracuse. Un groupe dont le rôle, depuis 2007, est d'assister à chaque arrivée de bateau de migrants, puis d'identifier les passeurs. Une mission qui s'est élargie quelques mois après sa création.
En octobre 2007, on a récupéré 16 corps qui avaient été éparpillés sur les rochers en bord de mer, juste après un naufrage. C'est à partir de ce moment-là que le responsable de notre équipe a décidé de retrouver les proches des victimes.
Souvent éparpillés aux quatre coins du monde, les familles sont difficiles à retrouver. Et la meilleure arme dont dispose l'inspecteur Milazzo est sa grande maîtrise de l'informatique et d'Internet. Bien loin de se douter alors que cela lui vaudrait de rendre un nom aux migrants victimes de naufrage et d'informer leurs familles de leur disparition. Aujourd'hui, il a changé de service de police mais continue inlassablement de répondre aux messages des familles pour tenter d'identifier formellement les trois dernières victimes.
Fort heureusement, la grande majorité des candidats à l'exil parvient à rejoindre l'Europe sain et sauf et ils commencent à s'installer un peu plus durablement dans leur pays d'accueil. Des pays où parfois des initiatives les aident à commencer une nouvelle vie. C'est le cas en Allemagne où vient d'être publié un livre pensé pour les enfants réfugiés. Une étoile qui regarde à travers la fenêtre, c'est son titre, propose 10 histoires pour s'endormir, à lire et à relire, recueillies par l'auteur allemand Thomas MacPfeiffer. Avec une particularité, ces histoires sont à découvrir dans 8 langues différentes. À Berlin, Julien Michossi a rencontré son auteur.
C'est le 10e livre de Thomas MacPfeiffer, auteur à succès d'ouvrages pour enfants, et le premier entièrement pensé et écrit pour être lu par des enfants réfugiés.
Je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai pensé à tous ces enfants qui ont fui la guerre, failli perdre la vie et qui n'arrivent pas à dormir. Je me suis alors mis à la fenêtre et j'ai regardé le ciel étoilé. Et je me suis dit, si ces enfants font pareil que moi en cet instant, ils voient la même étoile que moi, une étoile qui scintille et qui est leur amie. Et en fermant les yeux, ces enfants ne voient alors plus ces terribles images de leur fuite. Non, ils voient cette étoile qui les regarde à travers la fenêtre et peut-être qu'ils peuvent s'endormir paisiblement.
Une étoile présente sur la couverture du livre avec des histoires venues de Syrie, d'Irak ou encore du Burkina Faso. Et ces histoires, Thomas MacPfeiffer est allé les recueillir auprès d'enfants et de familles venus chercher protection en Allemagne. Elles sont ainsi rédigées en 8 langues, en allemand bien sûr, mais aussi en pachtoun, en anglais, en français ou encore en arabe. Susan Marogi, syrienne et mère de 3 enfants, a aidé Thomas McPfeiffer à réunir, mais aussi à traduire ses comptines en araméen et en arabe, comme celle-ci.
C'est une histoire sur l'amitié. 2 enfants qui sont amis, qui habitent un petit village dans la région de Damas. Tous les jours, ils prennent ensemble le chemin pour se rendre à l'école. Et sur ce chemin, ils vivent plein d'aventures et ils s'entraident comme le font les meilleurs amis. Mais pour connaître leur histoire, il faut la lire jusqu'à la fin.
Thomas McPfeiffer a aussi écrit des histoires originales pour ce livre, des récits présentés à des enfants avant la publication, pour être certain que la magie opérait.
Avec Susan Marogi, nous avons testé les histoires avec ses enfants et d'autres enfants réfugiés, notamment en arabe. Ils ont été tout de suite emballés. Ils nous ont dit « Oui, c'est comme ça chez nous à la maison. Chez nous aussi, il fait chaud toute la journée. Nous dormons tous ensemble sur les toits et regardons le ciel étoilé. » Ces enfants étaient vraiment heureux d'entendre ces histoires.
Cette histoire se passe au Burkina Faso. C'est un pays dans l'ouest de l'Afrique.
Une histoire recueillie est présente dans le livre également en moré, la principale langue parlée au Burkina Faso, et qui a pour seule ambition d'offrir à ses enfants un moment de répit.
Je sais que ces enfants ont besoin de calme, de se sentir en sécurité, de se retrouver dans leur cocon. Et je suis très heureux de la décision de nombreuses institutions de soutenir ce livre, de l'avoir acheté pour l'offrir dans des centres de réfugiés, d'aller à la rencontre d'enfants réfugiés munis de ce livre, avec pour seule ambition de leur procurer de la joie.
Distribué gratuitement dans les centres d'hébergement de réfugiés, le livre de Thomas McPfeiffer a par ailleurs bénéficié du soutien des plus grandes maisons d'édition allemandes.
C'est une violence secrète à l'abri des regards, dans les foyers, la violence conjugale. Aucun pays d'Europe n'est épargné. Fin novembre, le Parlement serbe a adopté ainsi une nouvelle loi contre ces violences. Si les associations féministes ont salué le geste, elles sont cependant loin de se réjouir. Elles craignent en effet qu'il ne s'agisse que d'une nouvelle mesure cosmétique, alors que dans le pays, les violences contre les femmes restent un fléau. Rencontre avec 2 activistes féministes, signé Philippe Bertinchamp.
Rien qu'en 2015, 7 femmes ont été tuées en seulement 3 jours, du 16 au 18 mai, et toujours dans le cadre de violences conjugales. Officiellement, on estime qu'une femme est tuée tous les 10 jours, mais en fait, vous voyez bien, durant ces 3 jours, on est à 1 mort toutes les 10 heures.
Aleksandra Nestorov est une activiste du Centre des femmes autonomes, une ONG serbe basée à Belgrade qui apporte son soutien aux femmes victimes de violences conjugales. Elle a participé récemment à une campagne de 16 jours contre les violences contre les femmes. Elle récolte à présent des signatures pour que le 18 mai devienne la journée officielle des femmes victimes de violences domestiques. De nombreux citoyens et 3 ministres ont déjà signé la pétition.
Nous sommes très en colère, choqués, dégoûtés et nous avons décidé de demander à l'État de proclamer le 18 mai jour de commémoration des femmes tuées par leur compagnon ou un membre de leur famille. On dit que 30 à 40 femmes sont tuées chaque année en Serbie. À la fin 2016, 32 femmes sont déjà mortes sous les coups.
Le 23 novembre, le Parlement serbe a certes voté une loi contre les violences faites aux femmes. Il s'agit notamment de mettre en œuvre des moyens de prévention plus efficaces, mais aussi d'offrir un meilleur système de protection et de soutien aux victimes de ces violences.
C'est vrai qu'il y a de bonnes choses dans cette loi. L'une d'elles, sur lesquelles nous avons insisté, c'est la sanction immédiate contre les professionnels qui n'appliquent pas la loi ou qui font obstruction quand une femme porte plainte. Nous pensons qu'ainsi, les professionnels ne pourront plus agir en fonction de leur opinion personnelle ou leurs a priori, alors que des actes de violence sont en train d'être commis. À présent, nous devons accroître la pression pour que cette loi soit réellement appliquée. Car vous le savez bien, une loi peut très bien rester lettre morte.
Yelena Vishnic est l'organisatrice du festival BFM qui a réuni le 3 décembre dernier dans la capitale serbe des militantes féministes de toute la région. Si elle salue cette nouvelle loi, Elle aussi estime que les associations féministes doivent rester vigilantes.
Au tournant des années 2000, au début du processus d'intégration européenne, nous avons reçu des consignes politiques sur ce que nous devions faire. L'État devait intégrer des politiques féministes dans son agenda. Mais ça s'est révélé improductif. Je dirais même que c'est devenu un accessoire cosmétique, un objectif qui, dans les faits, ne s'est jamais réalisé.
Selon elle, malgré la perspective d'une intégration européenne, la société serbe n'a pas beaucoup évolué dans la promotion des droits des femmes. Elle aurait, au contraire, fait un grand bond en arrière.
Nous vivons une époque où la violence est redevenue légitime. C'est dans l'air du temps, le traditionalisme et le patriarcat sont de retour. D'autre part, les médias se servent de ce regain de violence de façon populiste. Les corps de femmes battues à mort font vendre les magazines. Les médias instrumentalisent ces faits divers, c'est ce que j'appelle une boucherie post-mortem.
Une seconde mise à mort, cette fois médiatique, qui s'inscrit dans une logique de marché avec tous les dangers que cela implique dans la société.
Les médias ne communiquent jamais avec les institutions, ils communiquent avec les amis, les proches et la famille de la victime. Bien entendu, leurs rapports ne sont pas objectifs. On ne sait jamais ce qu'il est advenu de l'agresseur, ni quelle a été sa condamnation. Tout ce que l'on sait, c'est qui a tué qui. Nous n'avons pas d'autres informations. Cela encourage des bandes d'idiots à croire que le fait d'agresser ou de tuer sa partenaire ne sera pas sanctionné.
Contre les forces rétrogrades qui semblent vouloir s'imposer de plus en plus en Serbie et ailleurs, le féminisme reste en combat de tous les jours.
Reportage à Belgrade de Philippe Bertinchamp. Un patchwork de points de vue par les fenêtres d'Athènes. Depuis 4 ans, l'artiste grec Yana Andreadis invite les habitants de la capitale à lui envoyer des clichés pris de chez eux. Sur les 10 000 photos envoyées, elle en a retenu environ 500 dans le cadre d'une exposition. Une expo soutenue par l'Institut français, à voir au musée Benaki jusqu'à fin janvier, Charlotte Stivenard.
L'artiste ne cesse de le répéter, une des photos qu'elle aime particulièrement, c'est une image que l'on retrouve partout à Athènes. Deux pots de cyclamen posés sur une table, sur un petit balcon, avec en face un autre immeuble de béton, avec encore d'autres balcons. Comme toutes les photos de l'exposition de Yana Andreadis, elles ont un cadre, celui de la fenêtre, depuis laquelle a été prise le cliché. C'est une des règles imposées par l'artiste à ses collaborateurs, tous ces Athéniens, professionnels de la photographie, artistes ou simples habitants de la ville, qui lui ont envoyé la vue qu'il voit tous les jours. Cette peintre et photographe a toujours aimé travailler sur le cadre, dit-elle. Dans son exposition, elle cite notamment le philosophe italien Léon Battista Alberti qui dit « Le tableau est une fenêtre ouverte par laquelle on peut regarder l'histoire ». Grâce à ces images, on visite des quartiers dans lesquels les touristes ne vont pas, né à Smyrni ou en Bellokipi, celui de l'artiste. On découvre l'architecture excentrique de ces immeubles que les Athéniens appellent les polykatikia, des bâtiments de 4 ou 5 étages gérés en copropriété et reconnaissables à leurs balcons qui donnent sur la rue et que les habitants personnalisent souvent à coups de plantes et de verdure de tout type. On passe par Placa où des photos du quartier font cohabiter orangers et toits de tuiles en terre cuite et partout ces clichés de l'acropole qui domine la ville, une vue qui peut rendre le connaisseur jaloux car on sait qu'à Athènes, les appartements avec vue sur le Parthénon ne se récupèrent que grâce aux bouche à oreille. Mais c'est le titre grec de l'exposition qui résume le mieux la relation complexe que l'artiste et les Athéniens entretiennent avec cette ville de béton aux mille charmes cachés. Athéna Thea, fenêtre sur Athènes, Thea comme vue ou alors Thea comme déesse.
Et nous refermons la fenêtre d'Accent d'Europe jusqu'à demain, 12h40 en universel. Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver également sur RFI.fr à la page émission. RFI, la sélection.